Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est toujours Cyrus, je suis toujours accompagné de FanOFX et de FanNoël et nous allons attaquer la deuxième partie du débrief de Cannes qui va être consacrée au jeu. On démarre sans plus attendre.
Alors, premier jeu, Yamatai. Jeu de mots.
Alors là, au niveau des jeux de mots. Alors, j'ai joué avec FanDuel et effectivement, on a fait la partie ensemble. On a mis à peu près un quart d'heure à démarrer l'explication de la partie. On a fait des vannes dans tous les sens avec le démonstrateur. Alors, on peut spoiler tout de suite un peu la suite. Hein. On a été un peu surpris par des choix qui ont été faits au niveau graphique sur les tuiles pour représenter les points de victoire, par exemple. Il n'y avait pas d'homogénéité entre ce qui avait été fait sur les personnages et sur les bâtiments, par exemple. Du coup, ça nous a un peu choqué. On a un peu vanné l'éditeur là-dessus, donc c'est parti là-dessus. Il y avait le même genre d'incohérence sur les tuiles qui permettent de définir l'ordre du tour et la piste qui définit l'ordre du tour. Enfin bref, on s'est un peu lâché, quoi.
Mais c'est un détail, mais c'est étonnant parce que j'ai toujours eu l'image de Days of Wonder comme tu vois, des perfectionnistes.
Ouais. Ça m'étonne aussi beaucoup ce que vous me dites parce que du coup, moi, j'ai pas joué à Yamatai et je m'attendais à un truc parfait, quoi.
Non, mais ouais, mais c'est rien, mais c'est juste un endroit, t'as des coquillages qui indiquent l'ordre des joueurs dans le tour, est un autre endroit où t'as un symbole qui va donner l'ordre des joueurs du futur tour, mais c'est pas la même icône du tour. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Bon, je sais pas, moi, ça m'aurait semblé logique d'avoir les mêmes icônes, mais.
Bon, et à part ça, il y a ma taille ou il n'y a pas ma taille?
Alors, bonne question.
Bah, il n'est pas ma taille. Bon, un peu plus sérieux.
Non, mais rassurez-vous, il est parti en pause après le démonstrateur, il allait beaucoup mieux.
Il est. Non, mais parce que autant de nous, on le venait. Mais alors lui, il a rajouté, donc. On a vraiment mis un quart d'heure à démarrer l'explication de la partie, quoi. Donc, Yamatai, c'est un jeu de Marc Paquin et Bruno Catala, donc édité chez Days of Wonder. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Et dans ce jeu, il va falloir construire un réseau de bateaux autour d'îles. Ce réseau va être commun aux différents joueurs, sauf qu'il va y avoir des contraintes de pose imposées par les bateaux qui sont déjà en place. Et il va falloir collecter les ressources qui sont déposées sur les îles, ce qui va nous permettre d'acquérir des personnages, et construire des bâtiments sur ces îles. Donc, après, il y a un système de scoring sur lequel je vais passer. L'ordre du tour est défini en fonction de l'action qu'on va choisir pour le tour. On a joué à 3. En fait, on a failli jouer à 4 parce que Papy Grincheux a voulu jouer et puis finalement, après l'explication, il a dit non.
Il est grincheux, hein, c'est Papy.
Donc il y a 5 actions disponibles pour le tour et on va choisir une de ces actions parmi les 5. Et en fonction de l'action qu'on a choisie, on va avoir une place différente dans le tour de jeu. Comme je disais tout à l'heure, donc dans la partie, on va pouvoir acheter des personnages qui vont donner des pouvoirs dans la partie, qui vont du coup orienter un peu notre stratégie. Alors, les gens ont tendance à comparer ce jeu à Five Tribes. En réalité, il n'y a pas grand-chose en commun avec Five Tribes, si ce n'est l'illustrateur. Les graphismes se ressemblent beaucoup, mais...
Et en fait, pour la petite histoire, au départ, c'est un proto du coup de Marc Paquin.
De Marc Paquin, ouais.
Qui était fait dans le même univers que celui de Five Tribes. Ça s'appelait Nakwala. Et c'était quand même un peu dans le même esprit, à la différence où Five Tribes est un jeu qui va se fermer, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'éléments sur le plateau. Yamatai, c'est un peu le contraire, c'est on va ajouter de plus en plus d'éléments sur le plateau. Alors effectivement, il y a pas grand-chose en commun dans les mécaniques. Il y a quand même des sensations de jeu ou des éléments de jeu que moi je rapprocherais de Five Tribes. Je sais que les gens qui aiment Five Tribes ont tendance à bien aimer Yamatai, alors que ceux qui n'ont pas aimé Five Tribes ont tendance à pas trop aimer Yamatai.
Ouais.
Alors, c'est pas une généralité, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti dans les gens autour de moi qui ont pu essayer, quoi.
Eh ben, c'est sans doute vrai parce que je dirais que je préfère Five Tribes à Yamatai.
Alors, ouais, il y a des éléments graphiques qui se ressemblent, mais c'est pas le même illustrateur. Clément Masson pour Five Tribes et Jérémy Fleury pour Yamatai. Mais on retrouve des iconographies un peu similaires, des voilà, c'est ça peut-être aussi qui fait un peu une sorte de mélange, d'amalgame dans l'esprit des gens. C'est vrai qu'il y a des sensations un peu similaires, pourtant j'arrive pas à donner des éléments de ressemblance, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Il y a bien une lutte pour la place dans le
Bah, il y
tour.
a quand même un peu ce côté égrènement, non? Puisqu'il me semble que dans Yamatai, quand même, tu poses au fur et à mesure des éléments autour des îles. Et ce côté un peu égrènement qui peut
Oui,
rejoindre un peu le côté. Mais de manière
mais dans ce
différente, je suis
cas-là,
d'accord.
Kingdom Builder, c'est de l'égrènement aussi, tu
Oui, non,
vois.
mais je suis d'accord, c'est très différent. Mais dans les sensations de manipulation, en tout cas, et dans les sensations de jeu, je trouve que.
En tout cas, pour moi, je retrouve un point commun, c'est que c'est tous les deux un jeu de vaisselle. Il y a un joueur qui joue, vous partez, vous revenez, de toute façon, il faut réanalyser le plateau au complet. Et pour moi, ça c'est un peu compliqué. Hein.
C'est clair.
Enfin, il faut que j'analyse toutes les combinaisons à chaque fois,
C'est clair, c'est clair.
c'est la mort. On a mis 1 heure et demie à 3. Alors c'est vrai que c'était une première partie, mais bon. Et quand même, enfin, j'y ai pas mis autant d'amour-propre que dans une vraie partie, parce que c'était une partie découverte. Et on a quand même fait 1 heure et demie à 3.
Non, il n'y a pas de difficulté particulière au niveau des règles, mais c'est vrai que bah, plus les tours avancent et plus au final tu as de choix dans ce que tu fais. Et donc bah, à la fin, choisir ce que tu vas faire prend bien 5 bonnes minutes, voire 10 minutes, voilà, pour compter à peu près ce qui va te rapporter le plus de points,
Ouais,
quoi.
peut-être pas 5 minutes quand même.
Ah bah
Mais
moi
bon,
je suis lent, qu'est-ce que
c'est.
tu veux?
Et donc, effectivement, si vous avez aimé Five Tribes, je sais pas dire comment, mais il y a des choses qui parlent, il y a une sensation. Donc, ça peut vous plaire. Mais il y a de l'analysis paralysis, et faut faire attention à ça quand même. Hein. Si on est sujet à ça, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Yamatai, à moins que tu aies des choses à ajouter, Fendwell.
Non, c'est cool.
Alors, Yamatai est dispo pour 48,90 € chez Philibert.
Ensuite, ben, je vais toucher deux mots d'Unlock rapidement, le vainqueur de cette As d'Or. On rappelle que c'est un jeu de Cyril Demeg, Thomas Coët et Alice Carroll. Enfin, c'est une idée de Cyril Demeg au départ, et dans la boîte, il y a trois scénarios, donc un de Cyril, un de Thomas et un d'Alice. Il y a toute une panoplie d'illustrateurs, c'est édité par les Space Cowboys. Et du coup, moi, je n'avais pas eu l'occasion de le tester avant sa nomination. Donc, bah voilà. Après la surprise de la victoire, j'avais vraiment la curiosité d'aller tester ce jeu. Donc, c'est pas mal. Sur le salon, il y avait plusieurs scénarios de découverte. En fait, déjà, bon, il proposait de faire le tutoriel, qui lui est dans la boîte de base. Et après, on a enchaîné, nous, avec deux scénarios. Donc, un scénario qui va être disponible pour les boutiques et pour voilà les démonstrateurs, donc c'est un vrai scénario imprimé qui tient dans une petite boîte, qui est un scénario d'une demi-heure à peu près. Et on a enchaîné avec un autre scénario qui sera disponible enfin un peu plus tard, je crois qu'il n'est pas encore disponible, mais qui sera disponible en print and play. Il prévoit de faire des petits mini scénarios découvertes en print and play.
Et ça, c'est une très bonne idée,
Peut-être qu'il est déjà.
en passant.
Ouais, ça c'est une très très bonne idée. Surtout que c'est des scénarios qui sont assez intéressants et voilà, qui durent un petit peu moins longtemps que les scénarios qu'il y a dans la boîte, hein, c'est à peu près une demi-heure à chaque fois, mais qui sont vraiment intéressants pour découvrir le jeu. Donc c'est sur ces deux scénarios, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer, hein. Là on a joué à 3. Nombre de joueurs recommandés, je crois, je sais plus jusqu'à combien, j'ai pas l'info, mais bon, ça peut se jouer potentiellement à.
Ça doit être
Ça
4, non?
peut ouais,
Recommandé?
ça peut jouer potentiellement à 5 ou 6. Hein. Après, c'est juste que voilà, c'est comme une escape room, tout le monde peut pas participer de la même manière à tout le côté enquête et découverte. On ressent vraiment bien la sensation d'escape room, d'urgence, de recherche, de spéculation, de test. Et tout ça, bien sûr, c'est accompagné pour que ça marche bien d'une appli. Donc l'appli sert à plusieurs choses. Elle fait déjà le chronomètre par rapport. Alors pour expliquer comment ça marche, en fait, on a un deck de cartes, d'accord? Il y a une première carte qui explique un peu la situation et qui dit, ben, dès que vous avez terminé de lire, appuyez sur le play de l'appli et retournez la carte. Donc à partir de là, on retourne la carte, on appuie sur play et sur cette carte, on va avoir un certain nombre C'est une scène avec un certain nombre d'objets et d'éléments qui sont représentés par des numéros. Et donc dans le deck, on va aller chercher ces numéros qui sont présents et on va révéler différentes cartes qui représentent des objets, des situations, etc. Et donc après, il va falloir résoudre des énigmes pour aller chercher. Et les énigmes, normalement, vont nous donner soit des numéros. Donc ces numéros, ça va être d'autres cartes qu'on va aller chercher dans le paquet. Soit ils vont nous donner des codes à 4 chiffres qu'on va devoir rentrer dans l'application pour débloquer des situations. Donc l'application sert aussi à ça. Et c'est très bien fait. Des fois on peut aller sur de fausses pistes, donc on va découvrir des numéros qui existent dans le paquet mais qui sont volontairement des fausses pistes. Du coup on va avoir des malus, donc sur l'appli il y a un petit bouton pour dire ben voilà, là il faut appuyer sur malus en fait, parce qu'on a fait une connerie dans notre déduction. Du coup ça va nous faire perdre du temps. L'appli permet aussi de demander soit des indices si on est vraiment bloqué, soit de nous révéler des objets cachés. Parce que sur les cartes, en fait, il y a des numéros qui correspondent à des numéros d'objets qui sont vraiment cachés. Il faut vraiment regarder les cartes et les illustrations en détail, des fois, pour trouver des petits éléments qui sont cachés. Donc on a vraiment cette sensation d'escape game qui est très bien retranscrite, avec en tout cas sur les deux scénarios.
Ouais, enfin moi j'ai un petit bémol quand même hein, sur la sensation d'escape game. Enfin, moi j'ai fait le tuto et le print and play. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a la sensation d'urgence du chronomètre, etc. Il y a le malus, c'est une bonne idée parce que ça fait perdre du temps et ça augmente la pression. Donc autant dans une escape room, tu vas ouvrir un truc qui sert à rien et t'as effectivement perdu du temps dessus. Et du coup, bah, le fait de perdre du temps, ça retransmet cet effet-là. En revanche, il n'y a pas la manipulation d'objets, qui est un truc pour moi hyper important dans une escape room. Et puis, t'as pas le fait d'être enfermé, évidemment.
Oui. Non mais je veux dire la
ou alors tu fermes la porte de chez toi.
Non mais on est d'accord, ça ce côté-là c'est beaucoup moins immersif que si t'y es en vrai, ça y a pas de souci. Je suis tout à fait d'accord. Mais sur les sensations, donc si tu enlèves, comme c'est un jeu de cartes forcément, tu enlèves la sensation voilà. Enfermement et oui je suis d'accord que c'est, je suis d'accord avec toi, c'est très important. Mais moi qui ai pas fait des masses d'escape game quand même dans ma vie, j'ai vraiment pris du plaisir à résoudre les énigmes, à manipuler quand même le paquet de cartes, à essayer de trouver les objets qui allaient ensemble, etc. Enfin, je pense que c'est quand même la simulation est quand même plutôt bien réussie, quoi.
Je suis globalement d'accord, hein, mais je mets un petit bémol quand même pour les fans d'Escape Game. Il faut relativiser, quoi.
Oui, oui. Après, voilà, c'est comme quand tu joues à Farm Simulator, t'es pas sur un vrai tracteur, tu vois, mais tu.
Oui, voilà.
Tu ressens quand même la.
Quoi, Simon? T'es pas sur un vrai tracteur?
Ok, ok.
Merde.
Non, mais je pense que c'est un bon produit, ça simule quand même pas mal l'escape room, c'est bien foutu. J'attends de voir ce qui va se faire chez d'autres éditeurs, parce qu'on avait vu des choses à Essen qui sont pas encore en français, et j'attends de voir un peu comment ça a été fait. Moi j'ai lu quand même des critiques sur l'appli, des gens qui la trouvaient pas pertinente, parce que bah, quand tu demandes un indice, autant quand tu es dans une escape room, la personne qui te donne l'indice, elle a suivi ce que tu as fait, et la personne du coup, elle va te donner un indice qui est pertinent. Autant là, quand on demande un indice à l'application, bah, il se peut qu'elle te donne un truc que tu savais déjà. Alors bon, moi j'ai fait que le tuto, et le print and play. Pour le tuto, j'ai pas besoin des indices.
Ouais, mais ça, tu peux le corriger comment pour de vrai, tu peux pas.
Il faudrait
un humain qui écoute et qui voit ce que tu fais. Une hotline. Ils vont faire une hotline.
Non, mais c'est un choix qu'ils ont fait de faire en sorte que l'application soit le moins invasive possible. Mais tu pourras aller à l'inverse de ça, demander à renseigner ta progression dans l'application. Ta progression dans le jeu au niveau de l'application. Alors évidemment, ça prendra un peu de temps, ça te sortirait un petit peu de l'escape, ça te sortirait du jeu. Alors c'est délicat, mais voilà, c'est un choix.
Mais c'est ce qu'ils font un petit peu au travers des codes justement qu'il faut trouver en fait, parce que les indices que tu demandes, en fonction que tu aies rentré tel ou tel code, ce sera pas les mêmes. Donc c'est un peu ça qui rentre la progression. Alors effectivement, c'est assez léger, hein. C'est très léger parce que t'en as pas beaucoup au cours de la partie, quoi.
Ouais, enfin le problème c'est que ça suffit pas forcément. Oui. Quoi.
Alors moi, à ma décharge, on a utilisé aucun indice sur les deux scénarios qu'on a fait. Quoi.
Comment il se la raconte le mec. J'hallucine. Ok, bon voilà, enfin Non, mais je pense que si vous aimez les escape rooms, intéressez-vous au jeu. Au pire, vous le trouverez sur Ocaso. Moi, il y a au moins déjà 60 abonnés hein, sur les annonces d'Unlock.
C'est vrai que voilà, comme c'est un peu comme Time Stories, mais encore plus jetable et court, je pense, puisque vraiment c'est des scénars qui durent une heure et demie. Ça veut dire que dans la boîte de base, il y a trois scénars, donc vous allez avoir allez, 5-6 heures de jeu, et après, effectivement, très compliqué de les refaire, quoi.
Après ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans ce
Oui,
soir.
non, c'est juste pour le signaler à nos auditeurs,
Et
quoi, pas
effectivement
qu'ils
tu as
s'attendent à
raison.
avoir un jeu rejouable, quoi.
Le jeu est vendu 26,90€ chez Philibert et il est disponible maintenant si ça vous intéresse. Vous savez où le trouver. Le jeu suivant, Fendwell, c'est toi qui nous en parles?
Oui, Guild, donc par Frédéric Bizet, illustré par Romain Gachet et édité par Bad Taste Games. Alors Bad Taste Games, donc pour à peu près 18 euros. Donc Bad Taste Games, ben on ne connaît pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi
Non, pas du
je
tout.
connais, c'est pas plus que ça. A priori, c'est un nouvel éditeur et puis ben, ils sortent une petite boîte à pas trop cher avec dedans une foultitude de cartes. En fait, vous avez deux types de cartes. Vous avez des cartes de guildes. Donc, en fait, il existe 14, si je dis pas de bêtises, enfin, une dizaine ou une douzaine de guildes différentes, on va dire, qui sont de taille croissante. Alors, on va dire la 14e guilde, elle va avoir 14 cartes. La 13e guilde, elle va avoir 13 cartes. La 12e guilde, elle va avoir 12 cartes, etc., etc. Je pense que d'ailleurs, une dizaine de cartes guildes. Et donc, elles vont avoir une présence plus ou moins importante. À chaque tour, on va recevoir des cartes, drafter les cartes et poser des cartes les unes après les autres une fois qu'on a drafté l'ensemble des cartes. Alors, vous allez me dire, mais ça ressemble pas mal peut-être à d'autres jeux que vous avez déjà, auxquels vous avez déjà joué, genre Corio ou ce genre de
Oui,
jeu-là. Alors,
effectivement.
oui, c'est vrai. Mais je l'ai trouvé un peu moins technique que Corio, je veux dire dans la difficulté, un peu moins punitif. T'as un peu l'impression d'avoir fait quelque chose. Corio, c'est un petit peu du oui ou non. Tu pouvais très bien te faire humilier, défoncer la gueule, alors que là, on arrive quand même à faire un score assez potable. Et aussi un petit élément de chaos que j'aime bien. Donc en fait c'est un jeu familial plus, tu vois, enfin familial plutôt, vraiment sympa. C'est-à-dire qu'en fait chaque tour va être différent dans la mesure où tu vas tirer un deuxième type de carte. Je vous avais dit qu'il y avait deux types de cartes. Un deuxième type de carte qui est une carte qui va édicter une sorte de loi pendant ce tour-ci. C'est-à-dire, bah, par exemple, tu vas jouer moins de cartes, tu vas jouer plus de cartes, voilà, il va y avoir des changements. Dans le sens du tour également, qui va être déterminé de façon aléatoire. Et ce qui fait bah, que c'est franchement c'est agréable. On a des dessins, des illustrations qui sont vraiment sympas. Bref, voilà, je vous recommande. Intéressez-vous en tout cas à ce petit jeu. Essayez-le, c'est jouable si je dis pas de bêtises, de 3 à 6 joueurs. Donc voilà, moi j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette petite partie avec les autres joueurs. Voilà.
Oui, c'est ça, 3 à 6 joueurs. C'est dispo chez Philibert à 17,90. J'avais vu des photos passer de ce jeu, mais j'en avais entendu vaguement parler en bien, mais je savais pas du tout de quoi il retournait. Donc à mon tour, alors moi je vais vous parler de Magic Maze. Magic Maze, c'est un jeu de Caspar Lapp, illustré par Guillaume. Je sais pas si ça se prononce Guillaume ou Guillaume. Il y a peut-être un jeu de mots avec Guillaume. Et c'est édité par Sit Down et on le trouve au prix de 22,50€ chez Philibert. Alors Magic Maze, c'est un jeu en temps réel, un jeu coopératif en temps réel pour être précis, dans lequel les joueurs vont incarner un groupe d'aventuriers qui normalement s'aventurent plutôt dans un donjon. Et donc en fait ces personnages se sont fait plumer dans le dernier donjon qu'ils ont visité, ils n'ont donc plus d'armes, plus d'argent sur eux, et ils vont donc tenter de se refaire. Et pour ça ils vont dans un centre commercial, et quoi de plus naturel, pour tenter de voler du matériel, donc des armes, etc. et de l'équipement. On sent tout de suite que le jeu part avec un univers un peu barré, et c'est justement un jeu complètement barré, donc ça tombe bien. Il va falloir dans ce jeu diriger 4 aventuriers. Donc quel que soit le nombre de joueurs, en fait, il y a 4 aventuriers. C'est pas un joueur qui possède un aventurier. On va tous avoir la possibilité de réaliser certaines actions pour l'ensemble des aventuriers. C'est-à-dire que, par exemple, si on joue tous les trois, moi je vais peut-être pouvoir déplacer les aventuriers vers le nord, toi Fenduel, peut-être que tu pourras les déplacer vers l'ouest, et puis toi Beno FX, tu pourras peut-être les déplacer vers le sud et l'est. Et puis peut-être que Fenduel pourra leur faire prendre les escalators, et moi je pourrais peut-être par exemple leur faire passer les portes. Voilà comment on va se répartir les tâches dans ce jeu. Et on va devoir amener chaque aventurier à sa boutique. Donc chaque aventurier a une couleur et une boutique a sa couleur. Et on va révéler, comme pour un donjon, on va révéler les différentes tuiles du centre commercial au fur et à mesure de notre progression et au fur et à mesure qu'on va passer les portes. Au fur et à mesure de la partie, il va falloir amener donc les personnages dans leurs différentes boutiques. Quand ils arrivent dans leur boutique, en fait, ça signifie qu'ils volent quelque chose. Il va falloir vite vite se précipiter vers la sortie pour éviter de se faire attraper par les gardes. Ou du moins le personnel de sécurité. Alors, le double twist, c'est non seulement on se sépare les actions possibles, mais en plus on ne va pas pouvoir discuter pour savoir ce qu'on doit faire et donc se concerter. Alors, ça y va du regard intense, de l'air de dire mais fais ce que t'as à faire, bordel!
Monte l'escalator, vas-y monte, boulet.
Ouais, et encore s'il comprend, on monte l'escalator, c'est pas mal, parce qu'après, il sait pas forcément de quel personnage tu parles. Donc c'est assez rigolo, c'est assez bizarre quand même comme jeu.
C'est très dur de ne pas parler.
Ouais, entre autres, c'est très dur de ne pas parler. Moi, j'avoue que j'ai un petit problème avec ça sur ce jeu. Malgré tout, je trouve qu'il amène quelque chose, c'est frais comme jeu.
Ouais, c'est très original, ouais. Surtout que y a une grande quantité de scénarios, je crois, dans la
Oui.
boîte. Et chaque scénario, en plus, les plus difficiles, peuvent se jouer avec différents nombres de tuiles. Ce qui augmente encore la difficulté pour trouver les sorties, les boutiques et tout ça. Donc, je pense au niveau rejouabilité et au niveau challenge, il y a vraiment quelque chose.
Oui, du coup, alors moi je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à ça. En plus, c'est pas très cher, à 22,50 €. Je pense que je vais en faire l'acquisition. Alors peut-être qu'il aura le droit à une chronique plus tard. Alors
Ouais.
un petit bémol, enfin un petit avertissement plutôt. Alors on a croisé Jérémy sur le salon, il l'a acheté. Le jeu est annoncé à partir de 8 ans. Alors il a une fille de d'une dizaine d'années. Et bah cet âge-là, ça passe pas. Disons que le premier scénario, ça passe, le deuxième, ça passe, et après ça devient un peu plus compliqué, quoi. Donc il faut être un peu vigilant là-dessus. C'est plutôt à mettre dans les mains d'enfants à partir de d'une bonne dizaine d'années, du coup. Alors j'avoue que j'ai été assez surpris du coup quand il m'a dit ça parce que la partie que j'ai faite, effectivement, ça me paraissait faisable, mais j'imagine que c'était le premier niveau, ce qu'on a fait sur le salon. Et quand il m'expliquait du coup ce qui se faisait sur les niveaux suivants, bah oui, ça devient assez compréhensible.
Ouais, moi mon petit bémol, parce que je l'ai testé aussi, j'en ai fait deux parties. Une partie à 5 joueurs, je crois, et une partie à 8 joueurs. Alors, c'est un jeu qui est annoncé de 1 à 8 joueurs, justement.
Ah oui.
Et oui, tu peux jouer tout seul aussi, il y a une variante où tu vas dépiler en fait les actions jusqu'à que t'aies la bonne, et tu dois re-rempiler jusqu'à que t'aies la bonne, etc. Ce qui va te faire perdre un peu de temps. À 8, en fait, tu te retrouves dans une situation où pratiquement tout le monde, en fait, les actions sont doubles, c'est-à-dire que il y a deux personnes qui ont la même action. Et
Ah,
là, ça
d'accord.
devient un petit peu, voilà, ça c'est un petit bémol. Je pense qu'il vaut mieux jouer à 3-4 joueurs. Ça doit être beaucoup plus, alors pas facile, mais beaucoup plus pratique et un peu moins fouillis. À 8, j'ai trouvé ça vraiment très fouillis, en fait. Tu sais pas qui fait quoi pour passer les choses. C'est un peu un peu chaotique, quoi. Donc sur le nombre de joueurs, moi enfin il est très très bien, j'ai bien aimé aussi, mais je vous le conseille vraiment jusqu'à 4-5 maximum. Au-dessus, j'ai peur que ce soit un peu le fait que ce soit des actions qui soient identiques entre différents joueurs, moi ça me pose problème.
D'accord, ouais, ok. C'est intéressant, tu vois, je pensais que le jeu était limité à 4, bêtement, ouais. 2 à 8, ouais. Mais enfin, ça doit être quand même sacrément fun, quoi, 8.
Ouais, alors C'est un bordel, c'est rigolo, hein. C'est rigolo et chaotique, donc on a bien rigolé, hein. Mais pour ce qui est de réussir la mission, c'est super chaud. En plus, c'est la mission d'initiation, donc celle qui est censée être facile.
Oui.
Et à 8, en fait, ça s'avère un vrai handicap d'être à 8. Quoi.
Sur une première partie, je pense qu'effectivement, c'est plausible que tu perdes.
Oui. Mais même à 8, si tu veux, pour l'accès aux pions, en fait, quand t'es 8, pour savoir qui fait quoi, les bras qui se croisent et tout, c'est pas très pratique, en fait, en jouabilité.
Ah. Tu crois pas que c'est comme Space Alert, pardon, où au final, ton équipe, au bout d'un moment, elle s'y fait et puis elle arrive
peut-être,
à s'adapter.
Après, si c'est une équipe qui joue souvent ensemble, etc., oui, sûrement. Mais si tu sors le jeu, tu l'expliques et que t'as 8 personnes autour de la table... C'est voilà.
Ouais, pas en première partie à 8 quoi.
Ouais, non, clairement pas.
En tout cas, enfin je pense que enfin le jeu est à 22,50, il y a quand même pas mal de matos dedans. Il est multilingue en 5 ou 6 langues. Je pense que
je trouve pas très beau le matos.
Ouais, il y a des gens qui m'ont dit ça.
Je veux dire en contraste avec la boîte, la boîte est plutôt cool. Et ensuite, bah l'intérieur, le matos m'a de refroidi, mais c'est juste je l'ai vu de loin moi.
Le graphisme t'a pas plu?
C'est ça, le fait que ce soit des pions, que t'es juste des petits pions tout bêtes quoi.
Ouais, mais ça c'est pour la manipulation, je pense. Comme il y a beaucoup de monde qui manipule, que ça doit être fait vite, etc. C'est vraiment des pions profilés avec la petite boule ronde au-dessus que tu peux déplacer facilement, quoi. Commence à faire des figurines un peu plus détaillées ou des meeples. Je pense que dans la manipulation, dans vraiment ce qu'il faut faire dans le jeu, ça devient un peu chiant.
Okay.
Je pense que c'est plus un côté pratique, le côté assez simple des pions, quoi.
Ouais, et puis l'idée aussi d'avoir un prix contenu, je pense, parce qu'à 22,50€, c'est pas cher. Hein.
Oui, parce qu'il y a quand même un paquet de tuiles. C'est vraiment. C'est un jeu qui a pas mal marché sur le salon, je crois. Hein. Ça a un petit peu buzzé sur le salon.
Ouais. Alors, on pourra. Quand on recevra Hélène Gravelot, on recevra également une personne de Sit Down, parce qu'il y a quand même un lien assez fort entre plateau et Sit Down. On pourra leur demander, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un pari sur ce jeu et, qu'ils ont fait un gros tirage.
Le pari est pour l'instant gagnant, je crois, sur les retours salon.
Ouais, donc un jeu à suivre. On passe au jeu suivant.
Ouais, alors Profiler, qui est un jeu sorti chez Cocktail Games, qui est un jeu de Romaric Gallonier, qui est illustré par Stivo. Alors c'est pas le Stivo de Jackass, hein, ça s'écrit STIVO. qui est un jeu qui personnellement c'est un jeu qui a super bien marché, je pense, sur le salon. En tout cas, nous, notre côté,
ami auditeur, si tu connais l'âge de Beno FX après ça, tu peux le mettre dans les commentaires.
Donc redevenons sérieux, 2 minutes s'il vous plaît.
T'en as perdu ton latin, hein.
Non mais ils peuvent essayer, hein, je pense que ils seront pas trop loin, je pense, de la vérité. Donc Profiler, c'est un jeu qui est sorti chez Cocktail Games et c'est un jeu qui a, en tout cas dans le groupe de joueurs qu'on était et puis le groupe d'amis qu'on était, on a dû en faire des dizaines de parties sur le week-end parce que ça va vite, c'est malin, c'est super rigolo. En fait, on l'a très vite acheté, on l'a très vite sorti le soir quand on allait boire un verre dans un bar, etc.
Ça a convaincu tout le monde.
Et ça a convaincu vraiment tout le monde. Alors le principe, parce que je suis en train de vous faire un peu saliver, ça a l'air trop bien et tout. C'est quoi le principe ? Eh bien, c'est assez simple et assez malin à la fois. En fait, à chaque tour de jeu, c'est un jeu coopératif, d'accord ? Donc on va jouer par équipe. À chaque tour de jeu, il y a quelqu'un qui va devenir le profiler. Donc le profiler, devant lui, il aura 6 personnages ou 6 personnes, en fait, qui seront dévoilées. Donc ça peut être Superman, ça peut être un pompier, ça peut être le voisin de droite du profiler. Donc ça peut être quelqu'un à la table. Il y a tout un tas de personnages comme ça. Et du coup, il y en a 6. Et
lui, Indiana Jones, Michael Jackson.
Indiana Jones, ouais, tout ça.
Shakira.
Ouais, tout ça. Il y en a, je crois, il y a 200 personnages et personnes dans la boîte de base. Enfin, dans la boîte, quoi. Il n'y a pas d'autres boîtes pour le moment. Le profiler va tirer un chiffre, un numéro de 1 à 6, pour savoir quel personnage il va devoir faire deviner à ses acolytes. Et pour faire deviner le personnage, il va avoir en fait 2 définitions, 2 caractéristiques. Par exemple, aime porter des tutus et ferait un bon animateur de colo. voilà, mais il y a plein de caractéristiques différentes. Ça peut être
aime faire la bombe dans la piscine.
Voilà, écoute plutôt Mozart que Joe Star, enfin il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, il y a une échelle de -5 à +5 en passant par le 0 qui est un peu plus neutre. Et du coup, en plaçant ces deux caractéristiques le plus judicieusement possible sur cette échelle de -5 à +5, eh ben il va falloir faire deviner un personnage. Alors les partenaires de jeu qui doivent deviner ne vont pas tout de suite dire le personnage qu'il faut faire deviner. Justement, le but est de procéder par élimination. C'est-à-dire qu'il va y avoir des discussions autour de la table, des négociations en sachant que voilà, tel personnage par exemple, on avait une partie où il y avait Jules César et Hermione Granger et je ne sais plus qui, mais voilà, on s'est retrouvé en finale avec Hermione et Jules César avec les caractéristiques aime beaucoup plus Mozart que Joestar, mais genre en +5 et fait pas trop de bombes dans la piscine, tu vois. Donc après il y a tout un débat autour de la table en sachant qui de Hermione ou de Jules César écouterait plus du Mozart ou qui ferait plus ou moins une bombe dans la piscine. Voilà, donc ça fait des débats complètement hallucinants sur des caractéristiques avec des personnages qui n'ont rien à voir. Donc là, j'ai fait un exemple pour les deux derniers entre lesquels on hésitait. Il y en a qu'on élimine bien sûr beaucoup plus facilement en fonction des caractéristiques. Mais c'est vraiment un jeu qui marche très très bien, qui est rapide, qui est malin et qui est très amusant en fait. Après, il y a un système de scoring qui est très accessoire en fait à chaque fois qu'on élimine un personnage. Je parle d'un jeu de Mathieu Despnous, j'ai l'impression que je dis en fait toutes les deux phrases.
c'est normal. T'as été contaminé.
En fait, c'est normal parce que en fait, du coup, c'est un jeu très malin. Et il y a un système de scoring, ce que je disais, qui est assez accessoire, puisque à chaque fois qu'un personnage est correctement éliminé, on va avancer sur une échelle. Et comme le jeu se joue en théorie en 5 tours, ben voilà, le score maximum c'est 25 si on a éliminé à chaque fois les 5 bons personnages. Et donc le but c'est d'aller le plus loin possible sur cette échelle de 25. Et puis un petit mode aussi hardcore, un mode gamer on va dire, où il faut deviner un personnage parmi 6. Si on élimine tous les bons personnages et qu'on devine le bon personnage, on doit en faire un parmi 7. Et à chaque fois qu'on fait un sans faute, on monte jusqu'à un parmi 10. Ce qui est très très chaud. On l'a fait dans le train, on a réussi un parmi 6, un parmi 7, un parmi 8 et un parmi 9. Ça devient très très dur, surtout qu'il faut faire un sans faute à chaque fois. Si on fait pas un sans faute, on retombe en gros à un parmi 6 et on recommence. Donc ça peut être un jeu sans fin. Enfin, le mode expert peut être sans fin. Mais c'est vraiment un jeu... voilà. Que moi je vous recommande, qu'on a beaucoup aimé ce week-end. Le seul petit bémol qu'on peut y trouver, c'est quand on fait beaucoup de parties comme nous sur un week-end, là, on a fait vraiment beaucoup beaucoup de parties, et ben on a tendance à se retrouver rapidement avec les mêmes personnages. Bon, comme ils sont pas toujours associés avec d'autres personnages identiques, c'est pas très grave puisque les comparaisons sont assez différentes. Au niveau des combinaisons, il y en a quand même beaucoup, mais on a comme cette sensation de retomber un petit peu rapidement sur les mêmes personnages.
Si t'as 200 personnages, à mon avis, tu fais une quarantaine de parties, t'as tout fait.
C'est ça. Voilà pour Profiler. Ouais.
Moi, j'avais beaucoup aimé la partie qu'on avait faite avec Mathieu Despnous après l'enregistrement de son interview. Je pense que ça va faire un carton, c'est vraiment un jeu rigolo. C'est vrai que le système de scoring n'est pas...
C'est assez fou.
Oui, c'est assez anecdotique, c'est pas ce qui fait le sel du jeu, effectivement.
Oui, on est d'accord que sur les parties games, c'est effectivement pas ce qui compte. Pour autant,
cela dit, le mode gamer de l'autre côté, là, ça propose vraiment un vrai défi hein, pour réussir à boucler le truc.
Oui, j'ai l'impression.
C'est très très compliqué.
Alors, il nous avait dit que c'était Martin Wittberg, je crois.
Qui lui avait soufflé l'idée, je crois.
C'est Martin Wittberg qui lui a soufflé l'idée exactement ou il lui a soufflé l'idée en fait, de faire un mode expert.
Il faudrait réécouter l'interview, mais oui, je crois que c'est en tout cas c'est quelqu'un d'autre qui lui a soufflé cette idée de scoring un peu expert.
Je crois qu'il nous l'a dit en dehors de l'interview.
D'accord, mince.
Mais réécouter l'interview quand même.
On lui redemandera.
Ouais, c'est ça. Retapez-vous les 4 heures. Tu sais qu'il y a quand même un auditeur qui nous a écrit, qui a pas trouvé le tic. Alors il en avait essayé, je sais pas combien. En fait, il avait une commande à faire chez Philibert. Et en fait, il n'a pas écouté la fin dans laquelle il y avait quand même un fort indice.
Oui, il y avait un indice énorme voilà, dans le bêtisier. Ouais.
Et du coup, il s'est retapé l'épisode. Et du coup, il a essayé de
faire une vision
différente.
Oh mon Dieu.
Alors, il m'avait envoyé un message en me disant « Je comprends pas, alors, j'ai pas trouvé. » Moi, j'avais répondu en privé.
En réécoutant l'épisode, Mathieu dit aussi souvent « Voilà ». Voilà, ça revient aussi assez souvent. Donc,
oui,
mais on l'a croisé sur le salon le jeudi, on a discuté un peu avec lui, avec Fendoel, et il nous a dit que quelqu'un de son équipe avait compté les en fait dans l'épisode, et
non,
qu'il devait y en avoir entre 6 et 700. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Donc c'est assez monumental.
Il a compté.
Non, mais enfin Mathieu savait plus exactement le comptage.
D'accord,
que lui avait donné son
cher
son,
auditeur.
Son...
Si tu sais pas faire quoi, de, si tu sais pas quoi faire de ta vie.
Alors, je sais pas si entre 6 et 700 c'est les en fait de Mathieu Despnous, si c'est tous les en fait de l'épisode. Parce que finalement, en réécoutant, on en a dit beaucoup aussi.
Ah
c'est
oui,
assez contagieux.
Parce qu'on en dit
moi,
aussi.
À un moment, j'ai signalé que voilà, il en disait beaucoup. Et à ce moment-là, je me suis écouté et j'en ai dit 3 ou 4 d'affilée aussi. Donc.
Enfin bref, voilà, c'était un petit clin d'œil à Kisarazu. Qui nous avait mis un petit commentaire à ce sujet, comme quoi il n'avait pas trouvé le tic de langage. Allez-y, enfoncez sur Profiler. Si vous aimez les jeux d'ambiance, très bon.
Puis c'est un très bon, ouais, même pour ceux qui sont un peu plus gamers, il y a un côté vraiment déduction qui est très intéressant.
On passe à un autre jeu. Alors on va passer à Mot pour Mot, qui est un jeu de Jacques Daignan. Ou Jack Degdan, édité par le Scorpion Masqué au prix de 22,50€ chez Philibert, qui est déjà dispo en précommande. Alors c'est un jeu qui a été édité déjà il y a quelques années en anglais, qui a été récupéré par le Scorpion Masqué pour être adapté en français. Le principe c'est que c'est un jeu de tir à la corde avec des lettres, donc il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter. Il y a des lettres qui sont posées au milieu du plateau. Alors il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet, mais toutes les lettres sont en un seul exemplaire. Il doit y avoir une vingtaine de lettres. Donc une équipe va tirer une carte sur laquelle il y aura un thème. On va lui demander de trouver un mot en rapport avec ce thème. Alors souvent c'est des thèmes un petit peu barrés, qui sont, qui se prêtent bien à trouver des réponses rigolotes. Par exemple, on trouve ça dans un distributeur. Alors évidemment, selon le groupe de joueurs avec lequel vous jouez, ça peut partir un peu en live. Si vous jouez avec des enfants, vous allez peut-être faire un petit peu attention. Voilà. Et donc, il va falloir trouver un mot et se mettre d'accord sur le mot pendant le temps d'un sablier qui est assez court, qui doit être à peu près de 30 secondes.
Ouais, je crois.
Donc, voilà. Et il y a un joueur qui va être responsable des lettres dans l'équipe et qui va épeler le mot qui a été choisi. Donc un seul mot, et avancer les lettres vers son camp, tout simplement. L'équipe adverse va faire pareil, elle va sortir une carte avec un thème, trouver un mot en rapport avec ce thème, et tirer les lettres de son côté. C'est marrant parce qu'au début on essaie de faire surtout des mots assez longs avec beaucoup de lettres, pour ramener un maximum de lettres vers soi, et puis au bout d'un moment, plus la partie avance, plus ça devient stratégique. Plus on va essayer de trouver un mot avec certaines lettres précises, soit les lettres qui sont presque gagnées par le camp adverse, soit les lettres qu'on a nous presque gagnées, quoi. Les lettres vont devoir parcourir trois cases en fait pour sortir du terrain vers notre camp. Et c'est la première équipe qui fait sortir 6 lettres qui gagne la partie. Moi j'ai trouvé ça assez rigolo. Parce que ça peut être sérieux, mais ça peut être assez rigolo en fonction des mots qu'on choisit en particulier. Et en même temps, c'est quand même stratégique. Donc c'est vraiment intéressant comme jeu. C'est plutôt unique en son genre. Et c'est un jeu que je pourrais acheter pour jouer avec ma belle famille, par exemple. Je pense que ça marcherait bien.
Ouais, moi j'ai joué, donc je partage l'avis. C'est un jeu qui est plutôt sympa et efficace. C'est assez original, ce côté un peu tir à la corde de lettres. Effectivement, on essaye de trouver des mots qui ont soit le plus de lettres possible, qui sont déjà de l'autre côté, qu'on veut ramener par rapport à nos adversaires, ou celles qu'on veut faire sortir. Après, il y a aussi des règles sur l'orthographe. S'il est avéré, ou si on arrive à avérer que l'équipe adverse s'est trompée d'orthographe, donc quand elle a appelé le mot, ben ça fait revenir les lettres là où elles étaient avant. Et pareil, si on trouve que l'équipe est hors thème. Alors sur ce point-là, c'est un petit bémol, parce qu'effectivement, quand on n'est pas d'accord, forcément, quand une équipe est sur le point de gagner et sort un mot qui est un peu limite ou qui est pas clairement dans la définition, mais il y a forcément un peu de un peu de mauvaise foi et de polémique sur est-ce que le mot rentre dans la catégorie énoncé ou pas. On a eu le cas sur notre partie sur un mot qui était déterminant pour la victoire. Donc là, heureusement, il y avait Christian Lemay himself pour nous départager, donc qui est l'éditeur du scorpion masqué. Voilà, c'est Christian qui a départagé, il n'y avait plus de questions, mais ça, c'est des situations où ça peut prêter à dispute, on va dire, sur la validité d'un mot dans une certaine catégorie. Mais autrement, très bon jeu, ouais, très très malin et assez rigolo sur le principe. Ouais.
Ouais, c'est un jeu qui était sorti en 2009, dans sa première édition, en anglais, et en allemand en 2013. Alors, c'est marrant, ça a tardé à sortir en français. Alors je sors pas ça de ma tête, hein, je sors ça de BGG. Merci BGG. Et le scorpion masqué lui a offert une bonne cure de jouvence, là, du mot graphisme, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Voilà, donc mot pour mot, intéressant, 22,50€ chez Philibert. Ne vous privez pas si vous êtes amateur de ce genre de jeu. On passe au jeu suivant.
Donc le jeu suivant, Century, par Emerson Matsushi, édité par Plan B Games et distribué chez Asmodee, qui devrait être disponible en juin. C'est un
c'est un proto ça.
C'est pas un proto.
Non,
on a joué une version finalisée, quasi finalisée.
Une pré-prod, je pense, ouais.
Une pré-prod, ouais. À voir, parce que les cartes étaient quand même assez fines, donc ça faisait un petit peu peur. J'espère que ça sera pas le cas dans la version finale. C'est un jeu qui se joue donc de, à mon avis, 2 à 5 joueurs. Dans la boîte, vous retrouverez des cartes, vous retrouverez des cubes avec des portoirs pour les cubes totalement inutiles,
des petites coupelles,
des piécettes. En métal, très jolie, très inutile,
trop jolie,
et surprenante, on va dire quoi.
Ouais, un peu, pas forcément nécessaire. Le but du jeu, c'est de construire, enfin, c'est de d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Comment on gagne des points? En construisant des bâtiments, si je dis pas la bêtise, en gros des cartes. En fait, on va construire 5 cartes. Le fait de construire 5 cartes met fin à la partie, et ensuite on termine le tour, on retourne les cartes qui étaient en fait face cachée, les bâtiments qu'on a construits, en fait on les a construits et ils ont été mis face cachée, et on regarde celui qui avait le plus de points parmi ces bâtiments qui ont été construits. Le principe, en fait, c'est un principe de rivière, c'est-à-dire que vous allez acquérir des cartes dans une espèce de rivière, et ces cartes sont des cartes de production, et donc vous allez les récupérer dans votre main et ensuite pouvoir les jouer. Alors par production, qu'est-ce que j'entends? J'entends le fait que les cubes ont une valeur croissante, et par exemple j'aurai une carte qui permettra de transformer des cubes jaunes en cubes rouges, et puis une carte qui va me transformer 3 cubes rouges en 2 cubes verts et 1 cube jaune, etc., etc.
Oui, c'est donc ça. T'as des cartes qui sont soit de production, c'est-à-dire que tu récupères directement des cubes, soit des cartes d'échange pour upgrader un peu tes cubes, quoi. Et tu nous fais pas rêver, il fallait nous expliquer que les cubes, c'est des épices, on va commercer, échanger, des épices.
Ça veut tout dire, justement.
Oui, non, on est d'accord. Je suis bien d'accord.
Non, mais ça a l'air. Enfin, moi, j'ai pas joué, donc j'ai juste suivi la partie. Il y a des airs de Splendor. On annonçait le jeu comme un Splendor Killer.
Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça.
Moi aussi.
J'y reviendrai après.
Non, bah vas-y.
Ouais, oui, effectivement, il y a plein de gens qui comparent ça à Splendor et qui annoncent ça comme un Splendor Killer.
Et qui ont raison.
Oui et non, pour moi c'est assez différent quand même. Effectivement, on rejoint un peu Splendor sur certaines sensations de jeu et sur la thématique un peu absente et un peu plaquée et bidon. Donc là, c'est des épices, c'est pas des pierres précieuses, quoi. Je trouve ça quand même. Alors, on retrouve des sensations, quand je dis qu'on retrouve des sensations de Splendor, c'est-à-dire que c'est un jeu où il y a assez peu de règles, c'est très vite expliqué, mais ça peut être relativement stratégique. Donc là-dessus, je suis d'accord, ça rejoint un petit peu Splendor. Après, je trouve ça, Splendor, je le trouve beaucoup plus immédiat. C'est-à-dire que c'est vraiment encore plus simple et plus épuré que celui-ci. Celui-ci a un intérêt parce que effectivement, on va avoir ce système de rivière, de récupération de cartes, de... Mais il y a toute une partie qui est quand même très différente. Déjà, c'est une sorte de deck building, c'est-à-dire qu'on va récupérer des cartes qu'on va pouvoir jouer et récupérer. Enfin, une fois qu'on les a jouées, on ne les a plus en main. Il va falloir passer un tour en fait pour récupérer les cartes. Et puis il y a ce système de valeur des cubes qui est très différent aussi de Splendor. Donc moi, je trouve personnellement qu'effectivement, il y a quelques similitudes avec Splendor. Mais je le trouve assez différent. Certains diront qu'il est un peu plus riche que Splendor, effectivement, dans les stratégies et du fait que tu fasses une main de cartes, qu'il y ait des valeurs différentes pour ces petits cubes, etc. Ça rend des stratégies qui peuvent être un peu plus diverses que dans Splendor. Mais je le trouve aussi beaucoup moins immédiat et je trouve qu'il a un petit peu plus de longueur. Il y a un peu des longueurs dans le jeu que Splendor n'a pas. Splendor, c'est vraiment assez immédiat, assez rapide. Les tours de jeu, on réfléchit des fois un peu à quelle carte on va prendre ou ce qu'on va faire, mais c'est plus quand même plus direct que ce jeu-là.
Je suis d'accord de ce côté-là. Même si néanmoins deck building, c'est à mon avis un bien grand mot.
Oui, c'est un très grand mot. Je suis d'accord.
C'est plutôt end building.
Oui, c'est ça.
Construit à main de cartes.
C'est ça. C'est un end building. Tu as le terme juste. T'as le terme juste.
Effectivement, tu as.
Ça se rapproche de ce qu'on trouve dans Lewis et Clark ou dans Concordia, par exemple.
Oui.
Ouais.
Complètement. C'est tout à fait. En fait, voilà, tu vas effectivement faire la main parfaite qui te permet via une combo d'arriver à faire les cartes qui vont arriver. Alors, il y a une mécanique qui est assez sympa. Quand tu prends des cartes, ça les décale et puis les cartes qui sont les moins voulues vont être les cartes qui vont prendre un petit peu de valeur. Donc c'est vrai qu'il y a de la richesse de ce côté-là et c'est vrai que de ce côté-là, c'est moins instantané que Splendor. Il y a une polémique quant à ce jeu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, alors je ne vais peut-être pas dire qui m'a dit ça, mais alors certains joueurs ont en fait eu accès à une boîte pendant toute une nuit et ont fait que jouer toute la nuit, et ils ont trouvé quelque chose comme 8 cartes qui, si au premier tour tu prends la carte, l'une des 8 cartes, tu gagnes la partie. Alors je pense que c'est un petit peu exagéré. Mais certaines
si
cartes
on a
8
déjà.
Alors certaines cartes sont, mais par
ça fait pas très
marquant. Mais par contre c'est vrai, je sais pas si c'est vrai que ce truc là, mais c'est vrai que certaines cartes que tu peux avoir, et il y a du hasard, hein, si tu l'as, c'est parce que pouf, elle est sortie de la pioche au moment où tu as remplacé une carte, tu vois. Mais certaines cartes sont quand même vraiment au-dessus des autres.
Oui, ça je suis d'accord.
Surtout les cartes qui flagrante quoi.
Les cartes qui produisent immédiatement et en grande quantité les ressources de base que tu peux faire après évoluer. Effectivement, nous la personne qui a gagné la partie, c'est quelqu'un qui a eu accès à des cartes justement de production des ressources de base. Et j'ai remarqué ça aussi, j'ai eu l'impression que à partir de ces cartes-là, on pouvait beaucoup plus facilement comboter derrière que quand on les avait pas. Et alors ça je l'ai remarqué sur une seule partie hein. Donc je pense que oui, il y a quelque chose dans ce sens-là.
Ouais, on remarque un truc sur une seule partie, c'est un biais.
Non, mais
je veux dire, je me permets de le dire parce que c'est confirmé par ce que vient de dire Fendwell.
Mais ce qu'ils proposaient, en fait, c'était de faire que eux, ils se disaient qu'ils allaient jouer les parties en chaque fois qu'ils voient que parmi les 8 très excellentes cartes qu'ils ont identifiées, si ces 8 excellentes cartes sortaient, l'une de ces 8 excellentes cartes sortait tout de suite. Dans le premier draft, enfin dans la première sortie de carte, il le remettait dans le deck en fait.
D'accord.
Il ferait un système comme ça.
Ok, c'est un peu dommage sur l'équilibre. C'est peut-être
c'est
un jeu qui est sorti un petit peu rapidement du coup par rapport au playtest, je sais pas.
Je sais pas parce que c'est difficile à équilibrer ou alors tu les élimines complètement ces cartes, tu vois. Mais voilà.
Il avait été annoncé pour Essen, ce jeu, non?
Je ne sais pas.
Essen de l'année dernière? Parce que c'est le genre triptyque.
Oui, c'est ça. C'est le jeu où il y aura des suites qui pourront être jouées ensemble ou indépendamment. C'est ça.
Ouais. Donc peut-être qu'il y a une raison pour ça. Peut-être qu'effectivement, si ça se joue en triptyque, les autres cartes ont de l'intérêt. Les 8 cartes très très puissantes ont peut-être de l'intérêt avec les autres jeux. Je sais pas.
Ouais, bon voilà.
Et donc, ouais, un petit mot sur Plan B Games. Moi, je connaissais pas. Et donc, j'ai appris que c'était des anciens de chez Philosophia qui avaient
Oui, c'est
monté
ça.
cette nouvelle
C'est
boîte d'édition.
des transfuges de Philosophia qui sont partis et qui ont monté cette maison-là. Un peu comme Space Cowboy avait quitté Asmodée. Enfin, même s'ils gardent des liens, c'est un peu le
Oui,
même
quitter
principe.
Space Cowboy, quitter Asmodée, c'est c'est moyennement vrai quand
Non,
même.
mais les Croc et Philippe Noret
Oui.
et Mark Nenez montaient Space Cowboy. Space Cowboy, je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. J'ai entendu que la moitié, mais c'est ça.
Allez, jeu suivant.
Au Captain, peut-être, qui est pas trop un proto non plus, qui va sortir en fin mai aussi.
Oh, capitaine, mon capitaine, je le fais? Moi, je veux le faire. Alors, au capitaine, mon capitaine, non, juste au capitaine, Légende of Luma.
Le premier du nom.
C'est le premier de la Légende of Luma. C'est l'auteur, c'est Florian Siriex, un auteur que j'aime beaucoup, moi aussi, il est du Sud, c'est pour ça. Illustré par Yann Parvel, Thomas Verschex, David Tosello, Raja S, Max Deguin, Pascal Kiddo, édité par Ludonote et distribué par Asmodée.
Alors, je ne sais pas si tous ces illustrateurs ont bossé sur Captain, mais je crois que ça va être toute la bande qui va bosser sur l'univers de Luma, du coup.
Ah bah d'accord. Donc c'est un jeu de bluff, hein, je pense qu'on peut dire ça.
C'est carrément
Oui,
ça.
complètement, c'est complètement ça.
Dans lequel on a un capitaine avec un beau chapeau. Est-ce que le chapeau sera dans la
Je
boîte?
pense pas, non.
Je ne pense pas, non.
À moins qu'il
Ça
soit
avait l'air d'être un
iophysé.
très beau chapeau.
Bon, donc on a un capitaine qui va envoyer des moussaillons pour aller chercher des trésors cachés dans une espèce de grotte. Et il va pouvoir, au sortir de la grotte, quand ils sortent de la grotte, soit leur acheter leur butin, soit leur laisser. Voilà, tout simplement, le laisser à ses matelots. Et en fait, parmi les trésors qu'on trouve, il y a des trucs super chouettes, genre plein de sous, enfin des points de victoire. Ou aussi, il y a justement des points de victoire négatifs. Ou alors, il y a des cartes avec effet. Et donc l'idée, c'est vraiment du bluff pur, c'est-à-dire que le matelot, quand il va sortir, il va faire ouais, en fait, il s'agit de une lanterne qui va permettre d'éclairer. Donc un truc qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. Et puis en fait, derrière, c'est un flingue qui va être super utile et que je pourrais utiliser pour aller détruire une carte d'un autre joueur. Donc voilà, il y a des notions de répartition de cartes, parce qu'au fur et à mesure, les cartes vont être plus ou moins visibles au centre de la table. On va les laisser visibles devant chaque joueur. Donc on saura globalement les cartes qui restent, les cartes qui ne restent pas. Ça sera plus facile de faire des déductions. Et voilà, donc c'est un jeu de bluff, de déduction. Et ouais, je pense que c'est à peu près tout. C'est pas un jeu lourd. C'est vraiment un jeu léger qui tourne assez vite et un peu hasardeux. C'est-à-dire que j'ai bien bluffé, je me suis fait quand même bien détruire la gueule comme ça pendant
Ouais.
ta gueule, quoi,
Alors en
voilà.
fait, on a joué ensemble, hein, FanDuel. Et toi aussi, t'as joué Benefix, mais pas la même table que nous, c'est
Ouais,
ça?
pas avec vous, mais j'ai joué une partie ouais, le dimanche matin. C'était mon dernier jeu de Cannes.
Alors sa particularité principale par rapport aux autres jeux de bluff, c'est qu'il y a un double bluff. C'est-à-dire que le matelot qui va piocher la carte va d'abord pouvoir bluffer le capitaine. En tout cas, il va annoncer ce qu'il a pioché. Et le capitaine va effectivement pouvoir lui acheter sa carte. Donc il va pouvoir y avoir du bluff parce que si la carte l'intéresse, il va pouvoir dire au capitaine quelque chose qui n'intéresse pas le capitaine. Ou alors il peut essayer de lui refourguer la carte parce que c'est un truc pourri et donc faire croire au capitaine que c'est un truc bien. Bref, donc bluff quoi. Si le capitaine lui laisse la carte, il a une autre opportunité de bluffer. Cette fois, il va pouvoir utiliser sa carte sur un autre joueur. Donc il va dire par exemple, j'utilise ma carte sur toi. C'est un pistolet, donc je te détruis une carte. Le joueur en question peut dire non, non, je pense que tu bluffes. Si Diggy Bluff, donc évidemment on va regarder la carte. Si le joueur avait menti, il va avoir une pénalité. Si le joueur avait raison, c'est celui qui a dit qu'il avait menti qui a une pénalité. Et en plus, la personne va pouvoir jouer son action. Donc c'est ça la particularité majeure de ce jeu. Pour moi, par rapport aux autres jeux de bluff, c'est qu'il y a deux bluffs dans la même action. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup les jeux de bluff. J'ai trouvé que ça tournait. Après, évidemment, il y a un petit côté hasardeux parce que on va tenter de jouer des fois sur les probabilités et les probabilités, ça vaut ce que ça vaut.
Non mais c'est surtout le fait que n'importe qui peut te défoncer la gueule juste parce que c'est toi quoi, voilà.
Oui, bien sûr.
Ça
Bah,
tu peux rien y faire.
oui, effectivement, sur les cartes, il y a des coups de pute, en gros. Donc, on peut forcément, de façon arbitraire, on peut lancer toujours ses coups de pute à la même personne, ou viser la personne qu'on pense être en tête, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce qu'en fait, toutes les cartes sont pas révélées. Donc,
Il y a même beaucoup qui sont pas révélés finalement.
ouais, au final, il y a quand même pas mal qui sont pas révélés.
Et puis il y a une défausse qui est accessible qu'au capitaine
Oui, c'est
justement.
ça. Donc,
Donc il y a le capitaine, il a
lui.
plus d'informations que les autres. Ouais.
Oui. Moi j'ai trouvé ça plutôt malin, c'est pas les purs. Tu disais c'est un pur jeu de bluff, alors oui, c'est du bluff, mais c'est pas les purs du jeu de bluff, il faut en avoir conscience.
Ouais, c'est pas un coup.
C'est
Oui, il
pas
y a
un
d'autres
coup,
paramètres que du bluff. Hein.
c'est pas skull, mais voilà, c'est sympa et chaque personne a un pouvoir différent, parce que chaque personne est un des personnages de l'univers de Legends of Uma, et donc a un petit pouvoir qui lui est personnel. Alors évidemment, on s'est fait défoncer par celui qui paraissait pas forcément être celui qui avait le pouvoir le plus fort, parce qu'il y avait une notion de majorité dans le
Non,
scoring à la fin, et cette personne-là pouvait remporter toutes les majorités.
non mais on s'est pas fait défoncer
Enfin,
entre lui.
toutes les égalités.
On s'est pas fait défoncer par lui, hein. On s'est défoncé entre nous.
C'est pas faux.
C'est pas pareil. Et en gros, lui, il est arrivé, bah, il s'était fait moins taper dessus, et voilà.
Ouais, c'est sûr. Bah, c'était une
Non
configuration
mais
un
c'est
petit peu
intéressant de jouer avec des
particulière parce
bons
que.
amis comme ça on s'en met franchement dans plein la gueule, c'est bien. C'est bien. Bon esprit.
Ouais, ce que vous avez oublié de dire aussi, moi, ce que j'ai trouvé assez original, c'est qu'effectivement, il y a un joueur qui joue le capitaine, mais ça peut changer en cours de partie.
Oui, ça
C'est-à-dire que
tourne, hein.
si un joueur devient plus riche que le capitaine, il peut au choix soit lui montrer sa fidélité en lui donnant une pièce, soit réclamer
Le titre du
le
capitaine.
capitanat, le titre de capitaine. Et du coup, c'est à lui après qu'on va proposer des cartes. Et donc ça peut être intéressant quand on fait des collections ou des majorités de devenir capitaine à un moment. Alors moi j'étais un peu déçu parce que j'avais un personnage qui avait un pouvoir qui était intéressant que quand il devenait capitaine et je n'ai jamais réussi à devenir capitaine. J'ai malgré tout gagné la partie donc ça m'a un peu consolé. Mais oui c'est un jeu c'est un jeu que j'ai pas trouvé révolutionnaire mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez agréable qui est assez rigolo et qui pour le coup je pense peut être assez familial aussi malgré l'aspect bluff qui peut rebuter certains c'est quand même un jeu de bluff gentil quoi
Donc voilà, ça doit sortir courant mai, c'est ça?
fin mai je crois ouais.
Donc ça c'est le premier jeu de la gamme Legends of Luma.
Ouais, donc c'est première narration en fait où vous êtes des explorateurs qui se sont échoués sur les îles de Luma justement, qui ont été sauvés par la bête légendaire de l'univers de Luma, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, qui est une espèce de bête
Espèce de
marine,
Raymanta, non?
ouais, de
Non
grosse
mais
raie.
Yann nous en reparlera.
Oui, c'est vrai qu'on reçoit Yann Paroval prochainement, il pourra nous en reparler. Tu as raison, on va écourter.
On va écourter. Alors, moi je vais vous parler de Seeders, épisode 1 Exodus. Parce que là, on est un peu dans le même contexte. C'est Sweet Games, la partie édition de Sweet November, qui propose aussi tout un univers. Donc, il va proposer une série de 6 jeux, je crois, dans un univers qui lui est plutôt science-fiction, plutôt futuriste, assez loin de Legends of Luma, et qui s'adresse plutôt à du core gamer. Donc, j'ai essayé l'épisode 1, Exodus, qui était beaucoup demandé sur le salon, le fameux jeu avec 4 tables qui était pris d'assaut le dimanche matin. C'est un jeu dans lequel il y a de la majorité. Il y a un plateau sur lequel on va se battre à coups de majorité pour obtenir des cartes. Et puis il y a un aspect draft. À côté de ça, donc il y a quatre cartes qui vont être distribuées aux joueurs. Bref, on va les drafter. Ensuite, donc il y a cette notion de majorité sur le plateau qui va nous permettre éventuellement d'améliorer nos compétences pour cette partie majorité. Et une fois que cette partie majorité est jouée et faite, on va pouvoir récupérer des cartes sur le plateau qu'on va ajouter à notre main qu'on a draftée initialement. Et on va ensuite donc entrer dans une phase où on va pouvoir jouer nos cartes qui vont avoir des effets. En fait, il y a différents clans, il va y avoir des synergies à l'intérieur d'un clan. Il y a 6 clans dans le jeu qui vont avoir des effets un peu particuliers. Et alors c'est un jeu dense, c'est un gros jeu, on a fait 2 tours sur les 4 prévus, on a mis quand même presque 1 heure et demie, hors explication. Il y a beaucoup de textes à lire sur les cartes. L'univers a l'air intéressant. Pour les amateurs d'univers fort, je leur conseille d'aller jeter un coup d'œil à ça. Surtout que, alors, on va vous parler pas mal de Legends of Ruma et Yann Parovel qu'on a invité risque sûrement de vous en reparler. Et du coup, je vais faire un petit live là-dessus parce que c'est la même idée, mais dans un univers différent et traité différemment. C'est-à-dire que eux, par exemple, ce qu'ils proposent, ils proposent des nouvelles qui ont été rédigées sur l'univers qui vont permettre d'étoffer l'univers. Donc pendant Cannes, ils distribuaient une courte nouvelle qui fait même pas une dizaine de pages sur l'univers, que j'ai pas eu le temps de lire malheureusement. Le jeu en tant que tel, moi je l'ai trouvé lourd, je l'ai trouvé un peu trop, un peu too much. J'ai bien aimé la partie majorité sur le plateau et personnellement il m'aurait mis cette partie-là avec la récupération de cartes qui faisait des effets et paf moi ça me suffisait. Rajouter le draft par-dessus, rajouter les effets en cascade, c'était un peu too much pour moi. Ça s'adresse vraiment à du core gamer, ce que je prends plus le temps de faire. Et du coup, il faut imaginer pouvoir faire au moins une vingtaine de parties du jeu pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser la chose, quoi. Donc, je pense que ça va intéresser une communauté de joueurs particulière. Donc, enfin, moi, j'ai des gens en tête à qui je vais dire, va jeter un coup d'œil, ça risque de t'intéresser. Mais, enfin, personnellement, je passerai mon chemin. Je sais pas, vous avez entendu parler de Squid Game et de cette série de jeux?
Bah, j'ai entendu parler de Seeders, effectivement. J'ai vu passer, je crois, des posts sur la communauté ludique. Mais non, alors je savais pas que ça sortait déjà ou que ça allait sortir. Et
Alors, c'est en
c'est en
précommande, si j'ai
précommande.
bien compris. En fait, j'ai essayé de regarder, mais j'ai pas trouvé. Je sais pas si c'est sur le site de l'éditeur ou. Enfin, je sais pas trop.
Ok.
Le matériel, lui, il est plutôt de qualité. Les graphismes sont jolis. Mais alors, l'ergonomie des cartes, je la trouve vraiment à revoir. Les cartes sont carrées, les textes. Sans mentir, les textes se retrouvent sur un timbre-poste. Du coup, enfin, voilà, il y a. C'est pas du core gamer jeune, quoi, tu vois. Il y a une bonne vue.
Ou avec une loupe.
Ouais, ou avec une loupe, ouais. Voilà. Un univers intéressant, une série de jeux à suivre pour les core gamers.
Ok.
On parle de Folded Battle?
Ah oui, Folded Battle. Donc c'est un jeu pour 4 joueurs, ni plus ni moins, à mon avis c'est une connerie d'y jouer à moins, dans lequel vous incarnez un magicien, un archer, un ninja et un barbare. Donc en fait, niveau matériel, on a un petit plateau au centre de la table avec des petits jetons qui représentent chacun des personnages. On a également une jauge de vie sur le côté du plateau pour chacun des personnages. Et vous avez chacun devant soi une petite carte qui représente son personnage et un petit foulard. Alors je sais pas comment dire, un mouchoir, un foulard en soie qu'on peut plier dans différentes formes. Et l'un des... Alors là, c'était... En fait, on a également un tas de cartes qui va être très important parce que à chaque tour, on va piocher une carte de ce paquet de cartes. Cette carte indique, par exemple, différents symboles et il va falloir plier notre foulard jusqu'à obtenir les symboles demandés. Et le premier qui arrive à le plier avec les symboles demandés prend un jeton au centre de la table. Les jetons sont numérotés 1, 2 et 3. Et il jouera donc le premier, par exemple, s'il prend le jeton 1. Jusqu'à, bah voilà, alors on va avoir un jeton de moins, évidemment, que le nombre de joueurs autour de la table, sinon c'est pas marrant.
Oui, c'est sûr.
Et bah, en fait, au final, vous ferez les actions qui sont les actions apparentes sur votre foulard à la fin de votre pliage. D'accord? Donc en fait, parmi les actions disponibles, bah, c'est relativement simple. On a se déplacer, on a attaquer, on a se soigner, on a s'empoisonner, on a ouvrir un coffre, et puis on a, j'ai dit se déplacer, ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Et donc,
Okay.
bah, y a de l'aléatoire, il y a de la technique, d'accord? Parce qu'il faut vraiment être le plus rapide à faire
À
le
faire le
bon
pliage.
pliage. Ensuite, on peut être également, si on est encore meilleur, on peut être le plus rapide à faire le meilleur pliage, c'est-à-dire, bah, par exemple, si je m'arrange pour avoir plusieurs fois le symbole tapé sur le même pliage, genre trois fois le symbole tapé, ça peut faire super super mal. Voilà, donc il y a des petites techniques. Les personnages sont tous différents. Le magicien, il va se soigner dès qu'il va blesser quelqu'un. L'archer, il va tirer à distance et il va crapahuter donc assez vite. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait sur le foulard, l'archer par exemple, il va avoir plus de petits pieds, d'accord, qui plus de
Ah,
mouvement. Ah ouais, les
d'accord, ok.
foulards sont
Les
différents, ils sont
fleurs sont
vraiment
différentes.
par personnage. Alors il y a juste un symbole de plus en fait par personnage différent sur chaque foulard. Donc il y en a un qui va avoir plus de bouclier, un plus de frappe. Non, pardon, un plus de déplacement, un plus de soins et un plus de coffres. Et
Du coup, t'as des combinaisons qui. Des cartes qui sont plus faciles à faire pour un personnage que pour les autres.
oui,
À chaque carte est plus facile pour un personnage que pour un autre.
pas nécessairement, mais parce que il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a vraiment un symbole qui est différent. Voilà, en fait, c'est
Ok.
surtout, il y a aussi une notion de placement. Parce que tes personnages ont tapé, certains tapent en diagonale, certains tapent orthogonalement, certains tapent à distance, d'accord? Et donc il y a une, enfin bref, c'est, vous l'avez compris, c'est chaotique. Il y a un peu de technique dans le pillage, donc évidemment, bah un joueur qui a déjà fait deux trois parties, il va exploser un joueur qui a jamais fait de partie, enfin sauf s'il est
Ouais,
très doué tout de suite. Ou qui se découvre
une passion pour le
une
pliage.
passion pour le pliage, ouais, exactement. Mais voilà, je me suis fait. Alors, petit truc marrant que j'aime bien, enfin qui rajoute au chaos ambiant. Hein. Donc, si tu tues quelqu'un, ce quelqu'un devient un fantôme, et le fantôme, c'est ta némésis, quoi. Il va essayer de te traquer jusqu'à ce qu'il puisse te tuer. S'il arrive à te tuer, il devient une sorte de super fantôme qui a des pouvoirs en plus. Enfin voilà, c'est juste fun et qui peut attaquer n'importe qui. Mais avant de pouvoir attaquer n'importe qui, il est obligé de se venger de son tueur. Donc en fait, c'est pas trop mal parce que ça permet de faire que quelqu'un qui est éliminé, même s'il est éliminé, il va quand même rester dans la partie et il va pouvoir continuer à combattre. Bon, faut comprendre, hein, c'est hyper hyper chaotique. Hein. Premier tour, le barbare il saute sur la gueule du ninja, le ninja il lui rend des coups juste après, l'archer il tire au loin, le mage il essaie de dézinguer tout le monde parce il a des sorts de zone, etc. Bref, c'est un peu la folie totale. Il faut mieux parfois être. Enfin, c'est un peu ça souffre un peu des défauts de ce genre de jeu. Qui est que souvent celui qui se tient un petit peu plus en retrait au début de partie est celui qui gagne à la fin parce qu'il s'est fait le moins bouffer de points de vie, voilà. Mais c'est
Ouais,
sympa,
d'accord.
tu peux jouer entre potes, c'est léger, c'est vraiment un jeu apéro, voilà. Et puis les foulards sont très chouettes, franchement, voilà, je veux dire au toucher. C'est des foulards de soie, donc c'est très chouette. Et puis, bah, il y a une technique, il y a une vraie technique, quoi. Il y a des trucs que je pensais pas possible. Et puis, en fait, bah, on m'a montré que c'était possible. Et j'y suis arrivé, donc j'étais assez fier à la fin d'arriver à faire des trucs un peu techniques.
Ouais, c'est pas mal, si tu t'es fait pourrir dans la partie, à la fin t'as toujours le mouchoir pour pleurer.
Ouais, exactement. Waouh, trop bien.
Ah, du coup c'est un vrai jeu basé sur Foldit.
Oui.
Ouais.
Parce que Foldit, voilà quoi.
Foldit, c'est du
Non,
pliage.
mais on en avait parlé au retour d'Essen. Et c'est un jeu de. C'est un jeu de plis, disait Madame Schutz, pour la blague. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, Foldit, le mec qui a fait une partie plus que les autres, déjà, il va déjà dominer tout le monde. Et en gros, t'as fait trois parties de Foldit, t'as fait le tour du jeu, quoi. Et là, apparemment, il est quand même édité chez Goliath.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas les données, les infos pour Foldit Battle.
Bah,
Tu
vas-y.
peux le faire. Alors, je t'en prie.
Ben, moi, je les sais pas, moi.
Ah bon? Foldit Battle, bah alors ça va être édité. C'est par qui que ça va être édité? Happy Baobab ou alors au
Bah,
Storyware?
Happy Baobab en Corée, enfin Happy Baobab c'est en Corée quoi, alors je sais pas si ça va être
Ok.
importé en
Par
France.
Storyware French, non?
Donc on ne sait pas quand est-ce que Emmanuel Beltrando fera ça, on verra. On verra. Mais il était très motivé.
On demandera à Yann samedi,
Ok.
puisque lui il fait un peu partie je crois de We Are French, enfin on pourra lui demander du coup.
Ok.
Alors, je vais vous parler de mon côté de Paper Tales. C'est un jeu de Masato Uesugi, illustré par Christine Alcouf, qui sera prochainement édité chez Ketchup Games. Alors, j'ai essayé ça sur le stand de Ketchup Games. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est un jeu de draft. L'auteur, c'est celui qui a fait 12 Heroes et je ne sais plus le deuxième, mais c'est pas grave. Welcome to the Dungeon. Alors, Paper Tales, c'est l'édition française de Vorpals, pour ceux à qui ça parle. Alors, c'est un jeu de draft. On va drafter des personnages qui vont peupler notre cité. Quand on va jouer nos cartes, en fait, on va les poser dans un damier. Sachant que la petite particularité de ce damier, c'est que les cartes du haut vont affronter les cartes des voisins. Donc en fait, voilà, on va construire notre force militaire qui va donc se comparer avec nos voisins, un peu comme dans Seven Wonders. Pour autant, on est quand même très loin de Seven Wonders dans les sensations. J'ai jamais eu l'impression de jouer à Seven Wonders en jouant à Paper Tales. On a également des cartes au début de la partie qui sont des bâtiments qu'on va pouvoir construire. On va pouvoir construire donc dans notre cité et qui vont permettre d'activer des effets sur les personnages qui peuplent notre cité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion de génération, de durée de vie de nos personnages. Basiquement, nos personnages sont là pour 2 tours. En fait, à la fin de notre tour, on va mettre un jeton de vieillesse sur l'ensemble de nos personnages. Et si, avant de poser ces jetons-là, les personnages ont déjà un jeton de vieillesse, qui leur est, enfin, ont déjà un jeton de vieillesse, ils sont censés mourir. Alors évidemment, il y a des effets qui font qu'ils meurent pas, il y a des effets qui permettent de faire mourir les gens, les autres avant, parce que ça va être intéressant avec une autre carte, etc., etc. J'ai trouvé ça assez malin, c'est assez simple, et en même temps il y a une certaine profondeur dans la partie. Il y a vraiment de la tactique, c'est-à-dire qu'en fait le jeu va durer 4 tours. On va pouvoir mettre en place en gros des stratégies sur 2 tours. C'est pour ça que je parle plutôt de tactique. Et en fait on va du coup mettre en place des tactiques différentes dans la même partie. Et ça c'est plutôt intéressant. En bref, tactique, combo, draft, ça résume pas mal le jeu. Voilà, donc enfin je vous invite à vous y intéresser quand ça sortira, parce que moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal sur une
Ok.
partie. Voilà, ça se joue de 2 à 4 joueurs.
Le jeu suivant, c'est Treasure Hunter. Alors, je ne sais pas si ça va s'appeler Treasure Hunter, mais c'est un jeu de Marc Paquin. Hein, Yamatai. Clin d'œil, clin d'œil.
C'est ça.
Chez Matago fin 2017. Donc, en fait, ils voulaient essayer de le faire sortir pour Essen, mais ça semble
Compromis.
pas jouable. Alors, c'est un jeu assez étonnant. On en parle. Je fais un descriptif dans l'interview de Marc Paquin, donc je vais pas forcément m'étendre. Mais c'est un jeu de chasse au trésor qui se joue avec une grande carte sur laquelle on peut écrire avec des stylos et effacer. Et donc, il y a toute une mécanique basée là-dessus. Mais je vous invite à plutôt écouter l'interview de Marc Paquin pour avoir plus de détails sur ce jeu.
Ouais, moi enfin, je t'ai vu jouer au off. J'ai trouvé ça en tout cas au moins original et intéressant.
Mais c'était pas mal, mais en fait, enfin, il y a des ajustements à faire hein, quand même niveau gameplay, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation qui était un petit peu,
Non, mais disons-le,
enfin,
t'as perdu, t'es un peu mauvais joueur.
Voilà, exactement, exactement. Si tu veux, mon personnage avait un pouvoir qui, à la fin de la partie, Marc m'a dit effectivement. Il y a une règle dans le jeu qui fait que ton pouvoir est pourri. Donc voilà.
Ça mérite d'être clair au moins,
Donc
c'est
je vais
juste
l'enlever.
pourri.
Donc je vais l'enlever. J'ai fait OK. Et
Merci
voilà.
pour le playtest.
Et c'est tout quoi. Bref, je l'ai convaincu que j'étais dégoûté. Non, mais voilà. Mais ensuite le jeu est sympa. C'est dans l'univers de l'île au trésor. Et moi je kiffe. Enfin bon voilà.
Non, c'est à l'original, hein.
Oui, et puis les dessins sont de, on l'a pas dit, de Monsieur Dutrait.
Vincent Dutrait.
Et donc bah voilà quoi, faut aimer, mais si t'aimes, c'est du bonbon quoi.
Ça va
Voilà.
bien avec l'île au trésor, en tout cas. Enfin, moi,
Ah ouais,
personnellement, je
complètement.
trouve
Alors
que
là, à fond quoi.
ça s'y prête très bien. Ouais.
Alors, sauf que la carte, elle fait pas très Vincent Dutrait, c'est marrant. Moi, je trouvais.
Mais la carte, c'est un énorme sujet de questionnement, me disait Marc notamment.
Ouais, on laissera les gens écouter l'interview, on en reparlera sans doute plus
On
tard.
en reparlera de toute façon quand il sortira.
Oui, il y a des chances, parce que c'est un jeu vraiment original. Je vais vous parler de mon côté de Decrypto, qui est un jeu qui devrait sortir prochainement chez Scorpion Masqué.
Encore?
J'ai
T'as des actions?
fait le tour de Scorpion Masqué. Non, non, mais écoute, ils ont sorti Maudite Momie qui était bien, alors donc.
Non mais
Ils sont tellement sympathiques.
Et très
en
sympathique, oui,
toute
ils sont
honnêteté,
tellement sympathiques.
ça devient un gros éditeur, le Scorpion Masqué. Alors qu'il était tout seul, Christian, bah, maintenant il y a pas mal de monde, il y a un peu plus de monde et au final, bah, ça devient vraiment un éditeur en tout cas important en Amérique du Nord.
Ouais. Et reconnu aussi chez nous, effectivement. Il en parle un peu justement dans l'interview qu'a fait Dédé Schütz dans les dernières chroniques, les 84, si ça vous intéresse. Donc Décrypto, c'est un jeu. Alors là, accrochez-vous parce que pour l'expliquer, c'est tendu, tendu, tendu. Il y a un mec du stand qui me l'a expliqué enfin sur le stand alors qu'il n'était pas présenté. J'avais pas compris grand-chose. Et le soir, il me l'a réexpliqué et j'ai encore pas compris grand-chose. Et j'ai joué et je vais ah ok. Alors, il y a deux équipes qui vont s'affronter. Chaque équipe a quatre mots devant elle qui sont numérotés de 1 à 4 qui sont cachés donc à l'équipe adverse. Dans chaque équipe, il va y avoir à tour de rôle un joueur qui va jouer l'encodeur. Le principe, c'est qu'il va falloir utiliser des mots de la même famille que ceux qui sont présentés, enfin en tout cas des mots en rapport avec les mots présentés aux joueurs. L'encodeur va tirer une carte sur laquelle il y a une combinaison de trois chiffres. Ça va être par exemple 2, 4, 3. D'accord? Ça veut dire qu'il va devoir faire deviner cette combinaison. Il va falloir qu'il fasse deviner entre guillemets le mot 2, puis le mot 4, puis le mot 3. Les joueurs vont pas donner les mots, ils vont donner les chiffres quand ils vont chercher à deviner. Donc admettons que les quatre mots ce soit. Enfin, je vais prendre un exemple juste avec un seul mot pour faire simple. Admettons que le mot numéro 2 ce soit, je sais pas, arbre, par exemple. Donc il va falloir qu'il fasse deviner le mot 2, puis le mot 4, puis le mot 3. Pour le mot 2, il va dire donc à tout le monde. L'équipe d'en face va entendre également. Il va dire par exemple bois. Okay. Évidemment, pour son équipe qui voit les mots, c'est assez évident que arbre et bois, ça va ensemble. Donc ils vont dire que bois correspondait donc au mot numéro 2. Ils vont donc écrire dans leur combinaison que le premier mot cité correspond au numéro 2. L'équipe d'en face, elle va noter bois et elle va devoir, une fois les trois mots donnés par l'encodeur, donner une combinaison. Évidemment, au premier tour, elle va donner une combinaison au pif. Peut-être dire par exemple 4-1-3. Peut-être qu'il y a des mots qui seront bien placés, mais on va pas leur dire. En gros, si elles n'ont pas la combinaison exacte, elles ont perdu. C'est pas très grave pour l'équipe d'en face. En revanche, pour l'équipe à qui appartient l'encodeur, elle doit trouver le code exact. Elle ne doit pas se tromper sur le fait, donc par exemple, que le premier mot cité était le numéro 2. Si l'équipe, cette équipe-là se trompe, donc l'équipe de l'encodeur, elle va perdre un point. Elle met en fait un point négatif. Le jeu se gagne si l'équipe adverse fait deux points négatifs ou si nous on fait deux points positifs. Alors comment on fait des points positifs? C'est en découvrant le code adverse. Donc, si l'équipe adverse parvient sur cette combinaison-là à dire c'est 2, 4, 3, elle marque un point. Ok? Est-ce que vous arrivez à peu près à me suivre ou pas? Parce que c'est pas gagné. Hein. Je sais que c'est pas évident à expliquer. Moi, c'est clair dans mon esprit, mais je sais que c'est pas évident à expliquer pour avoir deux fois l'explication.
Il commence à être tard, du coup. On...
Est-ce que ça t'a plu?
Oui. Ah oui, c'était bien. C'était vraiment bien. C'est un côté codename sans lettre de tout. Juste par les associations d'idées, en fait. Hein. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, il va se créer un lexique. À la fin de la manche, on va dire à l'équipe adverse, la combinaison était 2-4-3. Donc, cette équipe, elle a 4 cases. Elle a la 4 sur un papier. Elle a une colonne 1, une colonne 2, une colonne 3, une colonne 4. Et donc, dans la colonne 2, ils vont écrire bois. Et peut-être qu'au prochain tour, le 2 va peut-être correspondre à feuille, voilà, toujours pour arbre. Et là, ils vont commencer à se rendre compte qu'il y a un lien entre tous ces mots. Il faut réussir à jongler pour donner des mots qui sont en lien avec le mot de l'équipe, mais en même temps qui sont loin des mots précédents qui ont été cités. Et c'est là que ça devient un vrai jeu de casse-tête cérébral pour réussir à faire deviner à son équipe tout en perdant l'équipe adverse. Et c'est vraiment super malin. En revanche, c'est vraiment un niveau vraiment au-dessus de Codenames. Au niveau cérébral, c'est vraiment un cran au-dessus. Hein. C'est beaucoup plus gamer que Codenames. Mais c'est. Moi, j'ai vraiment trouvé ça top. Voilà pour Decrypto,
Ok.
qui devrait sortir en début 2018. Donc, c'est pas pour tout de
Ça
suite, tout de suite.
marche. Donc, Fenduel, toi, t'as pu essayer Explorer durant ce festival aussi.
Oui.
Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la chronique qu'on avait fait sur Pillards de la mer du Nord, donc qui était Raiders of the North Sea en VO. Donc Explorer, c'est le troisième jeu d'une trilogie narrative sur les Vikings, voilà, qui est édité originalement par Garfield, Graphil ou Garfield, je sais jamais, Games. Donc c'est des jeux de Shem Phillips. Et qui donc c'est des arcs, c'est un arc narratif viking avec le premier jeu qui était Shipwright, donc qui était en gros la construction des navires des vikings. Le deuxième jeu donc qui est Raiders, qui est sorti en français sous le nom de Pierre de la Mer du Nord, qu'on vous a présenté dans un épisode de Jeu du Mois. Donc dans cet arc-là, c'est plutôt les raids vikings et les pillages vikings. Et donc Explorer, qui est le troisième jeu de cette trilogie, qui est plutôt l'expansion viking et du coup l'exploration des vikings que tu as pu essayer Fenduel.
Oui, exactement. Donc dans ce jeu, on va incarner un clan viking parmi quatre, si je dis pas de bêtises. Et bah, tout simplement, l'idée, c'est d'aller faire des raids dans des contrées lointaines. Alors comment est-ce que ça va se passer? Ben, c'est extrêmement simple. À votre tour, en fait, vous avez trois tuiles. Alors, il faut vraiment imaginer des tuiles octogonales. Ouais.
Octogonal, c'est pas
Une, deux,
hexagonal.
trois, quatre. Non, hexagonales. Donc, il faut imaginer des tuiles hexagonales qu'on va pouvoir placer. D'accord? Donc, à son tour, on place une tuile hexagonale. Sur chaque tuile, ben, on pourra avoir. Ben, il y a trois possibilités. Soit des animaux. Des animaux, alors des chèvres, des moutons, des coqs, enfin des poules, etc. Bon, il y a quatre ou cinq animaux différents. On peut avoir également des villages qu'on pourra raider. Donc les villages vont avoir une puissance, on va expliquer ça dans un instant. Ou alors des bateaux, des bateaux adverses qu'on va pouvoir couler éventuellement. Donc, notre bateau, alors on va avoir quatre actions. Parmi les actions, bah, c'est très simple, on pourra charger des vikings. Donc, on part de la terre viking, hein, qui se trouve à une extrémité du plateau qui va être en construction. On pourra charger en fait trois vikings dans notre bateau, jusqu'à trois vikings dans notre bateau. On pourra également décharger des vikings de notre bateau. On pourra charger des animaux et ra les ramener dans notre terre viking. Ça nous fera des points à la fin, on les gardera sur notre plateau, ça nous fera des points. On pourra les détruire des bateaux adverses. Alors quand vous détruisez des bateaux adverses, vous retournez une espèce de une tuile, tout simplement, qui vous dit si durant l'assaut certains de vos hommes disparaissent. Donc si certains de vos hommes disparaissent, ça peut être assez handicapant parce qu'ils disparaissent pour toujours. La bonne nouvelle, c'est que ça vous fait des points de victoire et c'est crescendo en fonction du fait que plus vous en avez qui sont morts, plus vous avez de points de victoire. Mais plus vous en avez qui sont morts, plus vous êtes dans la merde pour faire la troisième possibilité, qui est de raider les d'attaquer pardon les villages côtiers. Alors les villages côtiers, ils ont une force, d'accord, qui est exprimée par une petite tuile qu'on va retourner dès qu'on est posé à côté de ce village. Et la force, ça peut aller jusqu'à 5. En fait, ça va de 3 à 5. Ça voudra dire tout simplement qu'il faudra 3 vikings ou qu'il faudra 5 vikings. Donc en fait, le tour du joueur, c'est extrêmement simple. C'est placer votre tuile et ensuite réaliser les 5 actions. Alors par exemple, 1, je me déplace. 2, je décharge un viking. 3, je charge le poulet qui se trouvait là. 4, je me redéplace, etc. Et il y a une dernière action dont je n'ai pas parlé, qui est la construction d'un avant-poste. Alors en fait, la construction d'un avant-poste, alors que jusqu'à présent on n'avait pas trop d'interactions directes, d'accord, sauf qu'on se piquait les poulets, vous avez bien compris, avant que l'autre arrive. L'interaction directe, en fait, c'est un contrôle d'île qui ressemble pas mal à ce qu'on retrouve dans Carcassonne. Si vous vous rappelez les villes dans Carcassonne, c'est un petit peu ça. Faut avoir une majorité, et quand on a une majorité, on va être dominant sur l'île. On va pouvoir mettre des postes avancés et être majoritaire dans l'île. Ça fait qu'à la fin, si vous êtes majoritaire dans l'île, eh bien, vous allez marquer des points supplémentaires. Et donc, voilà globalement pour l'aspect mécanique. Ensuite, ça ressemble à du Carcassonne, en un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez devoir compter vos points de déplacement. Voilà, c'est. Je sais pas, j'étais hyper convaincu, mais c'est sympa. J'ai pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu le coup de cœur. Bon, c'est un peu cruel de faire une critique tout de suite, mais enfin non, mais même pas. Chaque joueur avait des pouvoirs et en fait, on les a pas du tout suivis. Aucun de nous n'a suivi ses pouvoirs et j'ai gagné alors que je pensais vraiment avoir perdu. Et bref, et en fait, j'ai gagné parce qu'un autre joueur, on a joué à 3, un autre joueur a bouffé tous les points du joueur qui était premier juste avant. Enfin, il y a eu du kingmaking, quoi, voilà. Et donc, voilà, ça arrive, mais voilà, bon, ça m'a pas. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je suis resté un petit peu dans mon coin. Ensuite, paraît-il, alors nous, on avait joué, j'ai joué avec Geeklette et avec Fanfan de l'équipe de Geeklette. Et donc, ils sont deux filles. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est des filles, mais en gros, la partie était peu agressive. Moi non plus, je ne suis pas agressif de nature. Donc, en fait, on est un petit peu parti dans notre coin. Et elles deux se sont bagarrées pour le contrôle d'île. Moi, j'étais bien tout seul. Et puis, au final, j'ai grillé tout le monde à la fin. Voilà. Comment ça s'est passé?
Je crois que Geeklette, elle a plutôt apprécié
Ah oui, Geeklette,
sa
elle a
partie.
adoré. Elle a adoré. Non, non, Geeklette et Fanfan ont adoré. On va dire que je suis le seul qui soit un petit peu modéré. Peut-être parce que, en fait, je trouve le côté un peu simple. Et on va dire parfait de Carcassonne, voilà,
Simple et parfait, quoi.
ouais, simple et parfait, quoi, tu vois. Non, mais ensuite,
Là, du coup, c'est too much.
ouais, mais si t'aimes le thème viking, tu vas adorer, quoi. Et si tu connais pas Carcassonne et que t'aimes le thème viking, tu adores au carré, quoi, tu vois.
C'est Carcassonne Viking.
Donc, un Carcassonne viking, ouais. Ça, je pense, ça résumerait bien le truc. Et ensuite, t'as des petits meeples donc je te disais de poules, de vaches et de chèvres et qui sont absolument adorables. Donc c'est aussi sympa pour ça.
Ouais, moi j'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Ça m'intéresse beaucoup puisque j'ai adoré Pillard. Dans les échos qu'on en a, effectivement, Pierre, ça reste le meilleur opus de la série pour la plupart des gens. Mais je serais intéressant quand même d'essayer Explorer. Et pour info, là, pour ceux qui nous écouteraient, normalement, si vous allez sur Kickstarter, il y a actuellement une campagne pour les extensions de Pierre, justement. Et je crois qu'il est possibilité de se procurer Explorer par la même occasion. Et avec les extensions, comme c'est maintenant signé chez Pixie, les extensions seront disponibles directement en français aussi durant la campagne. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était la petite info en plus.
Allez, le dernier.
Ouais, dernier. Donc je termine par vous en vous parlant un petit peu des extensions de Splendor que j'ai pu tester là sur le festival, qui était dispo chez Space Cowboy. Alors c'est des extensions, mais ce sera qu'une seule boîte. Hein. C'est une boîte en fait qui devrait sortir à SN et qui va regrouper 4 extensions pour Splendor. Alors j'ai pu en essayer qu'une des 4. En gros, il y en a une qui va consister en des cartes. Qui vont être rajoutés aux différents decks, et au lieu d'avoir des cartes avec juste une gemme et des points de victoire, il va y avoir des cartes avec des pouvoirs un peu différents qui vont te permettre de soit copier certaines pierres précieuses que tu auras déjà achetées, soit avoir des effets un petit peu différents de pièces d'or, en fait, les pièces d'or qui sont les pièces joker, donc des one shot de 2 pièces d'or par exemple, voilà. Donc ces cartes qui ramènent un petit peu de diversité dans le deck, notamment les cartes qui permettent de copier en fait des cartes que tu as déjà, c'est pas mal parce que quand t'as des pénuries de certaines couleurs que tu as besoin absolument, et eh bien tu as ces cartes qui permettent de copier des cartes que t'as déjà. Donc ça te permet de débloquer dans certaines situations. Il y a aussi des cartes qui sont assez intéressantes, qui te demandent de défausser des cartes, par exemple défausser 2 cartes vertes, et qui te donnent 3 points de victoire. Donc ça peut être en fin de partie, qui te permet des fois d'atteindre la fin de partie rapidement, plutôt que d'attendre une solution idéale. Là, tac, si t'es en position, tu défausses tes 2 cartes vertes, t'atteins les 15 points et tu mets fin à la partie.
Un petit boost de fin.
Griller quelqu'un en fin de partie.
Ouais, ça permet de griller un petit peu. Il y en avait d'autres qui te permettent de piocher immédiatement une carte d'un des 3 niveaux. Je crois que c'était niveau 1. Et de la mettre gratuitement dans ta collection de cartes, du coup. Voilà, donc ça c'est la première extension que j'ai pu tester. Il y en a 2 autres qu'on m'a expliquées. Donc il y en a une qui en version proto se joue avec les petites colonnes de Elysium, si vous voyez à quoi ça ressemble, mais qui en fait chaque joueur va avoir, je crois, de mémoire 2 colonnes à sa couleur, donc les joueurs vont avoir des couleurs spécifiques, et ces colonnes vont permettre de bloquer ou de réserver des cartes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des colonnes sur les cartes. Et donc ces cartes sur lesquelles il y aura des colonnes, seul le joueur qui a posé la colonne pourra la prendre. Donc ça peut servir soit à la réserver pour la prendre plus tard, sans pour autant la mettre de côté et prendre une pièce d'or, soit de bloquer une carte qui pourrait être intéressante pour un adversaire. Sachant que les colonnes, on peut les déplacer à notre tour de jeu si jamais on veut réserver une autre carte ou débloquer ou bloquer une autre carte. Donc voilà, ça avait l'air assez intéressant, même si ça avait l'air assez... ça pouvait être assez restrictif après dans les choix. On n'a pas eu l'occasion d'essayer cette variante-là. Il y a une autre extension qui va proposer, à la place des tuiles nobles, qui va proposer des tuiles d'objectifs. Alors, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Je comprends pas très bien la différence. Enfin, je sais pas est-ce que ce sera des objectifs de nombre de cartes d'une certaine couleur comme pour les nobles. Mais en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que dans ce mode de jeu, en fait, même si tu passais les 15 points, tu ne pouvais pas déclencher le fin de partie tant que tu avais pas au moins un des objectifs qui était
ah, mais
réalisé.
D'accord. C'est des objectifs obligatoires. Enfin, au moins.
Voilà, c'est des objectifs obligatoires. Contrairement aux nobles qui sont juste des points bonus, là, c'est des objectifs obligatoires pour déclencher la fin de partie. Et je t'avouerai que la 4e extension, je ne me souviens pas de ce que c'était.
C'est pas très grave.
Non, on nous a dit que c'était des extensions qui se jouaient uniquement indépendamment, c'est-à-dire qu'on pouvait pas les mélanger.
D'accord.
Alors bon, par rapport aux explications, je vois pas bien pourquoi on ne pourrait pas les mélanger, mais a priori c'est peut-être moins équilibré ou trop lourd après quand tu mélanges certaines de ces extensions. Enfin voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Ça, c'est à réserver, je pense, à des gens qui ont bien usé déjà leur Splendor, qui ont pas mal de parties derrière elles. Donc effectivement, ces petites cartes pouvoir, ces petites colonnes qui peuvent un peu bloquer les autres, ça ramène des manières de jouer ou des stratégies un petit peu différentes. Et donc voilà, je pense pas une révolution, mais un bon renouvellement pour ceux qui auraient beaucoup déjà joué à Splendor. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent beaucoup à ce jeu et qui l'apprécient.
Ok, et toi, enfin sur l'extension que t'as essayé, ça t'a pas paru plus lourd?
Non, un chouïa plus long. En fait, quand tu rajoutes ces cartes pouvoir, tu as. Parce que d'habitude, dans Splendor, tu dévoiles 4 cartes de chaque niveau. Là, tu en dévoiles 5, donc une de plus. Et après, j'ai trouvé que ça permettait vraiment d'envisager des stratégies très différentes. Justement, ces cartes qui permettent de copier une carte que tu as déjà, ça te permet d'accéder plus rapidement. Donc, elles sont un peu chères, hein, mais ça te permet d'accéder assez rapidement, des fois, à certains nobles. Les cartes aussi qui te permettent de gagner des points en défaussant, ça te permet des fois de déclencher la fin de partie plus rapidement. Ou dans mon cas, ça m'a permis de faire un score pas trop ridicule quand une tierce personne a déclenché la fin de partie, tu vois, j'ai pu faire quelques points.
Ok, donc plutôt une bonne impression.
Ouais, plutôt une bonne impression, qui est pas indispensable, mais qui renouvellera bien le jeu, je pense.
Ok, bien. Bah, écoute, je crois que c'est le jeu qui conclura notre épisode,
Ouais.
qui est bien plus long que ce que j'osais espérer.
Et puis il faut dire en plus que c'est tout ça, c'est qu'un petit échantillon, hein, de ce qui était à
C'est
Cannes, hein.
ça.
On n'a malheureusement pas pu tout essayer ou pas pu tout vous présenter. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de jeux, de nouveautés ou de protos cette année sur le festival.
Ouais. Moi, j'ai vraiment eu cette impression, pire que les autres années, de pas réussir à tout voir. J'ai même pas réussi à faire le tour du salon cette année. Je
Ouais.
suis pas du tout allé dans la rotonde, par exemple. Enfin bref. Donc voilà pour les jeux de Cannes. Alors je rappelle que pour cet épisode, hein, tous les jeux qui ont été présentés ce soir, pour la plupart, a été joué une seule fois dans un contexte particulier. Tenez-le-vous pour dit. On vous invitera toujours à essayer les jeux, même ceux qu'on a chroniqués. Sauf évidemment quelques exceptions comme Decrypto, Profiler. Qu'est-ce que vous retenez, vous, par exemple?
Bah moi je dans cette édition je retiens Profiler, hein, qui a été vraiment le jeu auquel on a énormément joué durant ce festival. Est-ce que je dois en retenir d'autres? Bah Unlock forcément le gagnant, hein, que j'ai découvert aussi, qui est une bonne surprise pour moi. Et après quelques regrets de jeux que j'ai pas essayé. Il y a un jeu qui s'appelle Photosynthesis, je crois, qui est un proto chez Blue Orange que j'aurais bien voulu essayer, qui a l'air très beau et très chouette. Et voilà pour moi. Suivant.
Alors, comme jeu du salon, je pense que Profiler est, enfin, peut-être mon jeu, mon party game du salon, ça c'est sûr. On va dire. Et ensuite, comme jeu du salon, bah, j'ai bien envie de faire une partie de Century pour voir si tout ce qu'on m'a dit dessus était avéré. Je veux dire, le fait qu'il y ait des problèmes de force, justement, dans les cartes. Mais en attendant. Ben, je vais me faire un petit guild ou un petit unlock bien sympathique avec mes amis, et puis ça va être juste parfait, je pense.
Ok, très bien, merci. Moi je vais faire l'acquisition de Magic Maze en attendant.
Ouais.
Eh bien écoutez, chers auditeurs, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter ou sur Facebook. Laissez-nous une note sur iTunes avec un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Puis ça nous donnera l'occasion de citer votre nom à l'antenne. Et en attendant le prochain numéro, le mois prochain, dans lequel nous nous retrouverons avec Benoît Fix dans la configuration classique du jeu du mois, d'autres épisodes vous attendent entre-temps. On se retrouve donc le mois prochain. Et en attendant,
Jouez bien!
Pour toi, Fendel.
Ah, Sentry! Bah, pas que pour moi, il y a aussi
Oui, j'ai joué aussi.
Bill Ben, ouais.
Mais je te laisse introduire.
Moi, j'ai juste pu regarder parce que l'un d'entre vous ne m'a pas gardé de place pour jouer.
Hein?
C'est pas moi.
Combien, c'est...
je viens d'avoir la réponse sur Twitter par Scorpion Masqué.
Nous écoutons live.
Non, mais oui. j'avais posé la question au début de l'enregistrement.
Il a un micro dans le bureau de Cyrus.
Ouais. Il est là en fait.
Il est là. Il dort chez Cyrus pendant 15 jours.
Salut Christian. C'est ça. Non, demain, le 1er mars, je crois. Ça, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui maintenant.
On est déjà le 1er mars. Non, il est le 1er déjà.
Bon, il est 4h du matin, faut le savoir, on enregistre depuis 9h. Hein.
On se fait un mode canne, quoi. On va se coucher à 3h tranquille.